en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'avenir des systèmes de positionnement par satellite. Tel était le thème de la conférence de Clovis Racento de Matos, théoricien à l'Agence spatiale européenne. Il s'est exprimé en janvier 2009 au Bureau des longitudes à l'Institut de France. Le système de positionnement par satellite, autrement dit votre GPS, devenu commun pour nos déplacements et prochainement Galileo, consiste en un ensemble de segments spatials et une communauté d'utilisateurs dotée d'un récepteur au sol. Le récepteur doit recevoir au minimum les signaux de 4 satellites pour déterminer sa position à l'aide d'un mini-calculateur inséré dans chaque récepteur. Laissons place tout de suite aux explications détaillées de l'expert sur cette question, Clovis Racento de Matos. Il aborde dans la deuxième partie de son intervention l'apport des sciences telles que la météorologie ou encore la géodésie qui utilisent cette technologie et la rendent chaque jour un peu plus performante. Clovis Racento de Matos.
Les systèmes de positionnement sont avant tout des systèmes opérationnels qui fournissent par conséquent un service et existent avec des contraintes qui sont inhabituelles pour on va dire une mission scientifique classique. La relation de Galileo avec les communautés scientifiques comporte donc deux aspects complémentaires. D'une part, les systèmes de positionnement fournissent un flux de mesures sur la forme et la surface de la Terre et sur l'environnement atmosphérique. Et d'autre part, les scientifiques tendent à exploiter au maximum les possibilités du système et le font par conséquent évoluer. Alors, je vais commencer très brièvement par passer en revue le principe fondamental qui régisse le fonctionnement des systèmes de positionnement. Ces systèmes de positionnement existent aujourd'hui grâce aux développements considérables qui ont été réalisés ces 50 dernières années dans la mise au point d'horloges atomiques ultra-stables et dans le développement de vastes constellations de satellites. Le système de positionnement consiste en un segment spatial et en des utilisateurs, en une communauté d'utilisateurs, chacun doté d'un récepteur qui se trouve au sol. Et le récepteur doit au minimum recevoir les signaux en provenance de 4 satellites pour pouvoir déterminer sa position à l'aide du mini-calculateur qui est inséré dans chaque récepteur. Ces calculs... Ce calcul de distance se fait en fait à travers une mesure de temps. Chaque satellite comporte donc une horloge atomique qui inclut à des moments bien définis un bip dans son signal qui est reçu par le récepteur de l'utilisateur, récepteur également muni d'une horloge, et qui pourra estimer l'intervalle de temps de propagation du bip depuis le satellite jusqu'au récepteur. En connaissant la vitesse de la lumière, on peut aisément calculer la distance qui le sépare du satellite. Il va faire ce calcul sur les 4 signaux qui lui parviennent. Et on voit immédiatement ici que la synchronisation est au cœur des constellations des systèmes de positionnement, puisque une désynchronisation de 3 nanosecondes entre l'horloge du récepteur et l'horloge à bord du satellite se traduira tout de suite par une incertitude de 1 mètre vu la valeur élevée de la vitesse de la lumière. Donc la synchronisation est établie dans le système à l'aide du segment sol qui comporte des horloges de référence qui sont régulièrement synchronisés avec chaque horloge individuelle à bord des satellites constituant la constellation. Et le récepteur doit déterminer 4 paramètres. Il doit déterminer sa latitude, sa longitude, son altitude, donc les coordonnées de position. Mais il doit également déterminer un paramètre qui caractérise l'avance ou le retard de son horloge par rapport au temps du système qui a été défini en synchronisant les horloges des satellites avec ces horloges de référence au sol. quatre inconnues. Il lui faut donc quatre distances, quatre équations pour résoudre ce système et pouvoir donner une information de position. Quelques mots sur l'architecture de la constellation en la comparant très rapidement à la constellation GPS. L'altitude des satellites GPS se trouve à 20 200 km. Pour Galiléo, elle sera de 23 200. Ce paramètre détermine directement les zones couvertes et la durée de la visibilité d'un satellite par un utilisateur au sol. Une altitude trop basse nécessite de déployer un nombre trop important de satellites, puisque au minimum, il faut avoir une visibilité de 4 satellites pour déterminer sa position. Et une altitude trop élevée conduirait à une augmentation de la puissance et de la masse des satellites qui rendrait la constellation trop chère à déployer. Ensuite, le nombre de satellites. Nous avons 30 satellites dans la constellation prévue pour la constellation Galiléo, contre 24 satellites pour le cas de GPS. Là encore, le but est d'assurer qu'on atteint la performance recherchée sur l'ensemble du globe. Donc un nombre plus important de satellites permet d'avoir une performance plus élevée puisqu'on aura plus de signaux disponibles pour calculer la position. Mais là encore, il faut trouver le bon équilibre entre la performance recherchée et le coût de la constellation. L'inclinaison, quant à elle, est de 56 degrés par rapport à l'équateur pour Galiléo, contre 55 degrés dans le cas du GPS. Donc cette inclinaison détermine les performances du système à des latitudes élevées. Donc on voit que dans le cas de Galiléo, on est un peu plus performant aux hautes latitudes que GPS. La répartition des satellites pour la constellation Galiléo se fait sur trois plans orbitaux, chacun comprenant 10 satellites. Dans le cas du GPS, nous avons 6 plans orbitaux, chacun contenant 4 satellites. Là encore, le nombre de satellites par plan orbitaux va affecter considérablement la stratégie pour déployer la constellation, le nombre de lancements et par conséquent également le coût de la constellation. Maintenant, quelques mots sur le signal avant de passer aux applications scientifiques proprement dites. Le signal Galiléo comporte trois bandes de fréquences et le satellite donc va moduler en phase une porteuse avec laquelle il établit le lien avec le récepteur. Comme le récepteur doit recevoir quatre signaux de quatre satellites différents, il doit pouvoir différencier les signaux. Et pour cela, on a recours à ce qu'on appelle le code CDMA, qui est un accès multiple par division de code, où chaque satellite se voit assigner un code qui permet de l'identifier de manière unique et qui permet ainsi au récepteur de conduire ses calculs sans problème. Le signal comporte également des informations sur les almanachs des différents satellites qui donnent la position de tous les satellites de la constellation sur plusieurs semaines avec une précision du kilomètre. Chaque satellite diffuse les almanachs de tous les satellites. Il comporte également les éphémérides qui sont une information sur l'orbite du satellite avec une précision de l'ordre du mètre ou d'une dizaine de mètres. Et pour les éphémérides, chaque satellite individuellement transmet ses propres éphémérides. Dans le signal, on a également une information sur la correction d'horloge qui donne l'écart de l'horloge du satellite par rapport au temps du système Galiléo tel qu'il a été défini dans le processus de synchronisation dont je vous ai parlé. Et finalement, nous avons quelques paramètres à prendre en compte dans les délais subis par le signal durant la traversée de l'ionosphère. Donc à l'aide de toutes ces informations, on arrive à faire fonctionner le système. Juste un mot sur les effets relativistes à prendre en compte pour que le système fonctionne. Ces effets sont triviaux, je dirais. Hein. D'une part, on doit tenir compte de la relativité restreinte, c'est-à-dire la dilatation du temps, et du fait que le temps passe plus vite en orbite que sur Terre, donc du décalage vers le rouge d'origine gravitationnelle. Ces deux effets viennent s'ajouter à l'effet Sagnac, qui apparaît dans les systèmes de référence en rotation. Ces effets cumulés donnent une avance de 38,6 microsecondes par jour. Or, la stabilité des horloges qu'on a à bord est de 4 nanosecondes par jour. Donc, si on ne retranche pas cet intervalle de temps, soit à bord du satellite avant de transmettre le signal, soit dans le récepteur proprement dit, et on tient compte de cet effet au niveau du récepteur lorsqu'on calcule les distances, eh bien, on se retrouve avec des erreurs dans l'information fournie par le système qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres par jour. Donc, ces effets sont triviaux, ils sont là, on en tient compte. Nous verrons dans la troisième partie que l'introduction de la relativité dans la discussion sur l'évolution des systèmes de positionnement prend place à un niveau beaucoup plus fondamental. Donc, passons à l'un des cœurs du sujet, la deuxième partie, l'autre cœur sera la troisième. Les applications scientifiques à court et moyen terme peuvent être structurées en fonction de deux modes d'observation du signal. Soit on observe le signal à partir d'un réseau de stations terrestres, soit on l'observe à l'aide de récepteurs placés sur des satellites en orbite basse. Dans le premier cas, ce qu'on va mesurer, c'est le contenu intégré de vapeur d'eau ou le contenu électronique total, et ceci d'une manière intégrée le long de l'atmosphère. Il est impossible d'établir des profils avec la première technique d'observation. Dans le deuxième cas, au contraire, la liaison radioélectrique traverse successivement les différentes couches de l'atmosphère dues au défilement relatif entre les deux satellites. Et il devient possible d'inverser les signaux et de restituer les profils verticaux qui deviennent tout à fait accessibles avec une précision qui peut amener un plus pour l'étude du climat et pour les prévisions météorologiques. Commençons par ce qu'on peut faire avec les systèmes de positionnement pour l'étude de l'ionosphère. Donc, l'indice de réfraction de l'atmosphère, comme vous le savez, est à l'origine de trois effets, qui est d'abord l'allongement apparent du trajet consécutif au ralentissement de la vitesse de groupe des ondes électromagnétiques, la courbure du rayon de propagation et finalement la scintillation des signaux qui s'observent au niveau des variations de la phase et de l'amplitude des ondes électromagnétiques qui traversent ces milieux. Donc ces trois effets imposent des corrections dans les systèmes de positionnement, mais ce qui est un inconvénient pour le service est une aubaine pour les scientifiques, puisqu'ils peuvent en contrepartie être mis à profit pour caractériser les milieux traversés. Donc l'écart de l'indice de réfraction par rapport à celui du vide est la somme de trois termes qui sont respectivement proportionnels à la concentration de l'atmosphère sèche, à la pression partielle de vapeur d'eau pondérée par le carré de la température et à la concentration électronique pondérée par le carré de la fréquence de l'onde. Donc, comme je vous l'ai dit, en incidence verticale, l'allongement est essentiellement dû à la concentration électronique durant la traversée de l'ionosphère. Et en incidence rasante, c'est la courbure du rayon qui est essentiellement due à la composante sèche. Pour les mesures de scintillation, celles-ci sont principalement dues aux instabilités qu'on observe dans l'ionosphère. Pour séparer les parties atmosphériques et ionosphériques, on a besoin au minimum de deux fréquences différentes. C'est pourquoi on a trois bandes de fréquences, non seulement pour faire fonctionner le système de manière adéquate, mais pour le scientifique, c'est une aubaine d'avoir ces fréquences différentes, puisqu'il pourra séparer la partie atmosphérique et la partie ionosphérique. Le GNSS, donc le Global Navigation Satellite System, je dirais souvent GNSS, le GNSS a également une application intéressante pour l'étude de la troposphère et de la stratosphère. Ici, la séparation des parties sèches et humides dans la basse troposphère n'est possible qu'avec l'introduction de données supplémentaires qui sont acquises par des radiomètres au sol ou bien par des radiosondes. Par contre, à plus haute altitude, dû à l'assèchement naturel de l'atmosphère, il devient possible de séparer plus facilement ce signal. Donc, en fonction des modes d'observation, que peut-on observer ? Eh bien, on peut observer le contenu électronique, la quantité intégrée de vapeur d'eau, les quantités de matière sèche, et en fonction des techniques d'observation. Pour le cas de la stratosphère, on peut établir des profils verticaux de température et de concentration électronique. Donc tous ces paramètres sont des paramètres importants dans les modèles de transfert de radiation qui sont utilisés en météorologie pour établir la prévision du temps. Passons maintenant à l'étude de la croûte terrestre, où les systèmes de positionnement ont beaucoup à apporter. Donc, les déformations de la Terre à grande échelle sont reliées à la tectonique des plaques, à la variation de forme globale, les marées terrestres. Tous ces phénomènes ont été mesurés bien avant le GNSS, mais ces phénomènes, à l'aide du GNSS, pourront être étudiés avec beaucoup plus de finesse. Puisque nous pourrons suivre l'évolution des positions géodésiques des stations GNSS dues au mouvement tectonique et aux variations séculaires de l'aplatissement de la Terre. Lorsqu'on a un séisme, le choc entre des plaques tectoniques crée des ondes acoustiques. Ces ondes acoustiques se propagent dans la verticale, dans l'atmosphère, et éventuellement vont perturber l'ionosphère. Il y a une mission du CNES baptisée Déméter, dont l'objectif est de corréler ces phénomènes acoustiques au sol durant les séismes avec ces perturbations ionosphériques. Comme je viens de vous le dire, les systèmes de positionnement peuvent nous apporter beaucoup d'informations sur l'ionosphère. Donc, ils apparaissent comme complémentaires dans cette mission de Déméter. Est-ce qu'on pourra, en combinant les deux, anticiper, voire prévoir ou étudier au moins les séismes d'une manière nouvelle qui complétera les techniques traditionnelles? C'est une question aujourd'hui ouverte et une partie de la communauté travaille dessus. En volcanologie également, les systèmes de positionnement ont quelque chose à apporter, donc à une échelle plus locale. La facilité d'emploi avec de ces systèmes, alliée à leur précision, permet de multiplier le nombre de points de mesure dans les zones sismiques. Après un séisme ou une éruption, il est aussi possible de mesurer le champ des déformations. Et donc les GNSS amènent un plus, qui est de pouvoir rattacher ces déformations aux repères de référence mondiale et donc d'en comprendre un peu mieux le moteur. Passons maintenant à la glaciologie, l'étude des glaciers. Là encore, en observant le mouvement de récepteurs GPS ou Galiléo fixés en certains points sur les glaciers, on peut étudier les déformations locales. La finesse de ces études est importante également dans le cadre de la climatologie, ces glaciers sont des indicateurs des changements climatiques. Et donc le GNSS apporte une finesse dans l'étude de ces glaciers. Un autre aspect important est l'utilisation du GNSS pour les campagnes de calibration des interféromètres SAR, Synthetic Aperture Radar. Là aussi, des travaux sont en cours. Je vais maintenant aborder une partie qui est particulièrement importante dans ces applications, on va dire, immédiates, qui est la météorologie, donc qui fait appel aux techniques d'occultation des signaux radioélectriques. Bon, ces techniques ont été utilisées de longue date, hein, à partir notamment des balises émettrices embarquées à bord des satellites géostationnaires ATS. Et aujourd'hui, nous avons l'instrument GRAS, qui veut dire Global Navigation Satellite System, Receiver for Atmospheric Sounding, qui est à bord de METOP, qui est un des satellites qui fait partie, avec Meteosat, des moyens mis à la disposition de METSAT pour diffuser les données et concevoir, élaborer les prévisions météorologiques. Donc l'apport essentiel des systèmes de navigation est une fois de plus dans la précision à laquelle ils permettent d'accéder. L'allongement apparent des ondes est potentiellement mesurable avec une précision de l'ordre du centimètre, voire quelques millimètres. Et ceci nous permet d'estimer des températures avec une précision du Kelvin à court terme, et à long terme, probablement, on pourra atteindre les 0,1 Kelvin. De même pour la mesure de la vapeur d'eau, qui se situe dans une fourchette de 5 à 10%. Donc, la prévision du temps met en jeu l'assimilation de ces mesures dans les modèles de prévision météorologique qui font appel à d'autres sources de données. Donc l'assimilation opérationnelle des mesures par occultation de la température de la concentration en eau devrait apporter une amélioration substantielle au travail des météorologues actuellement. D'autre part, un aspect important des systèmes de navigation dans cet objectif est qu'ils fournissent une très bonne couverture spatiale et temporelle des quantités qu'on veut observer. Je vais maintenant passer à un autre aspect très important des applications, qui est la géodésie. Donc le géoïde, comme vous le savez, est une surface équipotentielle du champ de pesanteur terrestre au niveau de la mer. La verticale est définie comme perpendiculaire à cette surface et on peut se déplacer sans fournir aucun travail sur cette surface. Donc sa forme est représentée grossièrement par un ellipsoïde qui épouse la forme des océans. Donc au tout début de la géodésie spatiale, le géoïde était obtenu en analysant l'orbite de différents satellites. Puis vers 1975, une nouvelle technique est apparue, l'altimétrie par satellite, qui consiste à mesurer par radar la distance verticale entre le satellite et la surface des océans. Et même des glaces. Donc cette technique a apporté une moisson de nouveaux résultats concernant le géoïde et en océanographie. Donc l'orbite d'un satellite peut être suivie avec le système GPS et pourra l'être avec le système Galileo. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire avec le satellite GOCHE, qui sera lancé dans les prochains mois. Il aurait dû être lancé vers la fin de l'année dernière, mais on a eu quelques délais. Donc ce satellite non seulement déterminera son orbite à l'aide de réception de signaux GPS. Passons à la scénographie. En disposant d'un géoïde établi d'une manière indépendante, indépendante des données altimétriques, on peut déterminer avec précision la différence entre la surface topographique de la mer, qui est également donnée par altimétrie, et la surface du géoïde reliée au champ de pesanteur terrestre. Donc cette information contient le signal océanographique à partir duquel on peut déduire les courants océaniques. Ainsi, en connaissant la topographie dynamique de l'océan, on peut déduire les valeurs des courants océaniques, leur vitesse, leur direction. Une limitation toutefois des techniques d'altimétrie satellitaire sont actuellement leurs limitations en résolution spatiale. Donc pour aller plus loin, de nouveaux concepts sont à l'étude aujourd'hui. Et l'objectif est d'avoir une constellation de microsatellites en orbite basse qui vont recevoir directement le signal GPS, mais qui vont également recevoir les signaux réfléchis par le GPS sur la surface de la mer. À bord de ces microsatellites, nous pourrions également avoir des récepteurs GLONASS, Galileo, et de la réception simultanée de tous ces signaux, on pourra déduire la topographie de la mer en des points distribués sur des étendues de plusieurs milliers de kilomètres. Donc le défi, c'est cependant d'atteindre les précisions au niveau de la topographie qu'on atteint aujourd'hui avec Topex Poseidon et Jason, qui sont de l'ordre du centimètre. Donc pour le moment, ce genre de concept existe uniquement au niveau du brevet. Et l'agence montre un intérêt, l'agence spatiale montre un intérêt pour voir une mission qui démontrerait la faisabilité en orbite de ce concept. Est-ce que ça fonctionne ou pas ? Donc voilà ce qu'on peut attendre du GNSS pour l'étude des océans. Donc avant de refermer ce premier volet sur les études, sur les applications les plus immédiates du GNSS dans les projets scientifiques, je mentionnerai également que ce qu'on a dit sur les océans s'applique aussi aux glaces. Et en mesurant la corrélation entre un récepteur au sol qui reçoit directement le signal GNSS et les signaux réfléchis par la surface de glace, on peut en déduire des informations sur les propriétés électriques de ces surfaces, sur l'humidité, et l'utilisation qu'on a fait des sols. De plus, comme on observe que la phase du signal maintient une cohérence sur ces surfaces, il est facile de définir les frontières de ces surfaces avec cette technique et donc de compléter les techniques traditionnelles qu'on utilise pour étudier les surfaces glacées de la Terre. Donc nous avons vu en quoi Galileo, GPS, GLONASS, le GNSS en général, est au service de différentes communautés scientifiques, l'océanographie, la géodésie. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer en quoi ces activités ont un retour sur ces systèmes qui les fait évoluer. Et pour ça, je vais essayer de suivre cet ordre qui commence par les horloges atomiques, leur évolution en termes de stabilité et de précision, leur relation avec ce qui se passe dans le monde de l'informatique, avec ces travaux de pointe sur les ordinateurs quantiques menés par différents instituts de recherche qui traitent du domaine. Et je vais vous parler également de la corrélation quantique, qui est un sujet important pour la métrologie en général, et pour l'ordinateur quantique. Comment retrouvera-t-on tous ces éléments dans le GNSS ? J'espère qu'on arrivera à le voir un peu mieux à la fin, en sachant qu'on ne peut rien dire de définitif et que c'est un sujet largement ouvert. On peut se pencher dessus, néanmoins. Je vais commencer par rappeler très brièvement le fonctionnement d'une horloge atomique. Dans une horloge atomique, on a un oscillateur de fréquence nue qui va générer une onde électromagnétique qui va exciter une transition atomique. L'énergie des atomes, l'énergie des électrons dans un atome est quantifiée. Et pour faire passer l'électron d'un état d'énergie EA à un état d'énergie EB, il faut lui fournir une fréquence appropriée. Qui correspond à la différence d'énergie entre les deux états divisée par la constante de Planck. Donc, ce signal électromagnétique généré par l'oscillateur va exciter une transition atomique la probabilité des transitions forme une courbe de résonance centrée sur la fréquence de transition avec une certaine largeur, delta nu. Et la mesure de cette transition atomique va permettre d'asservir l'oscillateur et d'ajuster avec une grande finesse la radiation électromagnétique qu'on utilise pour exciter la transition atomique. Donc on a une boucle d'asservissement entre une transition atomique et un oscillateur. Et ceci permet donc de réaliser des horloges atomiques avec des stabilités et des précisions très, très, très élevées. On caractérise une horloge atomique en fonction de la stabilité qui définit dans quelle mesure l'intervalle de temps entre deux battements est constant, et en fonction de sa précision qui détermine dans quelle mesure l'intervalle de temps entre deux battements correspond à la seconde atomique définie dans le système d'unité internationale comme étant reliée à la radiation émise durant la transition atomique hyperfine de l'atome de césium-133. Donc une horloge précise est nécessairement stable sur de longs intervalles de temps, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc la stabilité d'une horloge atomique, nous voyons ici qu'elle est proportionnelle à la fréquence d'interrogation, nua, et inversement proportionnelle à la largeur de la bande de la transition atomique interrogée. Et cela s'exprime à l'aide du facteur de Hallan, qui mesure l'instabilité relative de la fréquence. Dans ce facteur, le quotient S sur N représente le quotient signal sur le bruit, signal reçu après interrogation des atomes qui peuvent être du césium. Donc à partir de cette expression, on voit sur le graphique que la qualité des horloges atomiques croît lorsqu'elles fonctionnent à des fréquences d'interrogation élevées, et que la transition atomique interrogée a une bande d'absorption qui est étroite. Donc la stabilité croît lorsque le quotient, un autre facteur pour augmenter la stabilité, est d'accroître le quotient du signal sur le bruit. Et donc on peut jouer sur tous ces paramètres pour améliorer la qualité des horloges. Et aujourd'hui, on arrive à faire fonctionner des horloges dans le domaine des fréquences optiques, qui sont beaucoup plus élevées que les fréquences micro-ondes. Pour vous donner des ordres de grandeur, dans le cas des horloges embarquées à bord du GPS, le facteur de Hallan est, pour les meilleurs, de 10-15. En général, il est de 10-14. Aujourd'hui, nous avons de très bonnes horloges dans le domaine des micro-ondes à 10-16. Mais avec les horloges optiques, on est à des facteurs de stabilité, des facteurs de Hallan de l'ordre de 10-17. Ces horloges aujourd'hui ne peuvent en aucun cas voler sur des satellites. Elles occupent des laboratoires. Mais qui aurait dit qu'au début des premières horloges à césium qu'on aurait aujourd'hui des horloges atomiques à bord des satellites de positionnement. Donc tout ça après est un problème d'effort technologique pour intégrer et miniaturiser les systèmes. Ces précisions, ce degré de stabilité pour les horloges atomiques, ce niveau de stabilité, si on arrive à le transporter dans l'espace, vous allez voir, ouvre des champs d'application immenses. Avant d'aller plus loin avec les horloges atomiques, j'aimerais vous parler d'une activité qui n'est pas directement reliée au GNSS, mais qui va avoir une influence importante sur l'évolution des systèmes de positionnement, qui est l'expérience ACES. ACES qui veut dire Atomic Clock Ensemble in Space, qui va être embarqué à bord de l'ISS. Donc ACES, c'est une charge utile qui comporte deux horloges. Une horloge atomique basée sur les atomes de césium refroidis au laser et un masseur à hydrogène. Le signal de l'horloge ACES fusionne les deux excellentes stabilités de fréquence à court et moyen terme du masseur avec la stabilité long terme et la précision de référence de Pharao. Et les comparaisons d'horloge à horloge à bord sont effectuées avec un sous-système qui est désigné par Frequency Comparison and Distribution Package. Et l'un des principaux objectifs de la mission ACES, consiste à maintenir à bord de la station une échelle de temps stable et précise qui peut être utilisée pour des comparaisons de standards de fréquence espace-sol et sol-sol. Et ceci va être réalisé à travers un lien micro-ondes à la pointe du progrès qui va assurer un transfert de fréquence stable par comparaison directe entre des horloges atomiques, soit en technique vue commune, soit en technique vue non commune. Là encore, cette charge utile à bord de la station internationale, si on arrive à démontrer que ces systèmes fonctionnent correctement, il s'agit après de faire l'effort technologique pour les transposer dans une constellation de positionnement. Et pourquoi ça serait intéressant ? Parce qu'une des choses qu'on peut démontrer avec ACES, c'est que en comparant des horloges de grande qualité en orbite avec des horloges de bonne qualité au sol, avec le lien micro-ondes qui maintiennent, qui préserve ces stabilités, on arriverait à faire de la géodésie relativiste, c'est-à-dire à mesurer des différences de potentiel gravitique dans le champ de pesanteur terrestre en comparant des temps. Puisque, comme je vous l'ai dit sur les principes fondamentaux, le temps passe plus vite dans l'espace que sur Terre, c'est-à-dire le battement d'une horloge dépend du champ gravitique dans lequel elle se trouve, et avec les qualités de stabilité de ACES qui sont de l'ordre de 10-17 d'après Christophe Salomon, on arriverait à mesurer des différences dans le potentiel de gravité terrestre de l'ordre de 10 cm. Donc, si on arrive à démontrer avec ACES et l'ISS que la géodésie relativiste est possible, vous pouvez imaginer ce qui se passe si on arrive à transposer ces techniques dans le cadre d'une constellation globale, comme les constellations de positionnement. Ça serait fantastique. Maintenant, laissez-moi passer à ce que j'appellerais le vrai débat de la relativité générale dans l'évolution des systèmes de positionnement. Jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez entendu se ramène, on va dire, à la partie classique de la physique, où on considère un espace absolu, un temps absolu, qui ont été, on va dire, entièrement revus par la théorie de la relativité générale. En effet, la relativité n'impose pas de système de coordonnées particulier. La liberté de choix des coordonnées est beaucoup plus grande qu'en mécanique classique, et le choix est guidé par la commodité. Donc la forme quasi classique des coordonnées adoptées actuellement par le GNSS a l'avantage de conserver un terrain familier pour l'utilisateur. Et l'utilisateur peut même ignorer les lois de la relativité, puisqu'elles sont prises en compte dans le système proprement dit, soit à bord du satellite, soit dans son récepteur. Donc cette architecture newtonienne du système comporte cependant des inconvénients. Le premier est que les orbites des satellites sont déterminées par rapport à un référentiel terrestre. Et pour construire un référentiel terrestre, eh bien, il faut avoir des informations sur l'atmosphère, sur le centre de masse de la planète. Il y a plein de paramètres physiques à tenir en compte notre connaissance, la précision avec laquelle on va connaître ces paramètres va à la fin limiter le système de positionnement. Et ensuite, un autre obstacle, un autre inconvénient de cette architecture newtonienne est qu'on utilise un temps absolu, qui est le temps système. Donc là, toutes ces horloges à bord des satellites qui sont synchronisées avec des horloges de référence au sol. Je serais presque tenté de synchroniser deux horloges en mouvement relatif l'une par rapport à l'autre est un cas très particulier, un exercice très particulier en relativité, et je dirais presque que c'est un désir presque anti-relativiste. C'est pas la synchronisation entre deux horloges est quelque chose de profondément relatif et dépend de l'observateur. Mais j'aimerais mentionner les travaux de M. Bartholomé Cole de l'Observatoire de Paris-Meudon et de M. Albert Tarantola de l'Institut de physique du globe de Paris qui ont démontré qu'en partant de principes fondamentaux spécifiques à la relativité générale, eh bien, il y a seulement un système de coordonnées dans l'espace-temps qui est physiquement réalisable et complètement relativiste et immédiat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce système de coordonnées, dont je vais vous expliquer comment on le réalise, eh bien, chaque événement connaît immédiatement, sans aucun délai et d'une manière covariante, sa position. Ces systèmes reposent sur des ensembles de quatre horloges qui échangent entre elles tout simplement leur temps propre. Donc la constellation elle-même devient un système de référence relativiste covariant. Pourquoi c'est intéressant de faire évoluer l'architecture newtonienne qu'on a aujourd'hui pour les systèmes vers dans ces directions? Parce que avec ces architectures, eh bien, le système de positionnement gagne considérablement en autonomie et en intégrité, qui sont deux paramètres très importants pour les applications, notamment militaires. Donc c'est un terrain où un non-relativiste ne se sentira pas à l'aise parce qu'il aura affaire au temps tel que l'a pensé Einstein et pas tel que l'a pensé Newton. Mais dans ces systèmes de coordonnées lumière, puisqu'ils sont uniquement réalisés par les échanges de temps propre entre satellites, eh bien, on peut, avec les bons algorithmes, calculer les composantes du tenseur métrique et en déduire une information gravitationnelle. Donc, voilà pour ce qui est de ces nouveaux concepts relativistes. Et je trouve qu'ils sont très prometteurs pour l'avenir et qu'on devrait se pencher dessus. Je vais vous parler un petit peu des ordinateurs quantiques. Et pour cela, je vais les introduire en partant de la loi de Moore, qui a été formulée par Gordon Moore en 1965, et qui prédisait que le nombre des transistors des puces d'ordinateurs allait doubler environ tous les 18 mois. À ma grande surprise, et à la surprise de nombre d'entre nous, cette loi se vérifie. Si on regarde cette courbe, on voit qu'on atteint la fin, puisque le transistor aura bientôt 3 atomes d'épaisseur. Donc, quand on arrive à cette étape et qu'on a des grosses industries qui produisent des ordinateurs, qui alimentent des gros marchés, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va faire après? Eh bien, l'étape suivante consistera à utiliser les atomes ou les molécules eux-mêmes pour réaliser les tâches de mémorisation et de traitement d'un ordinateur quantique. Alors, de quoi on parle quand on parle d'ordinateur quantique? Quelle unité d'information? Alors, dans le cas d'un ordinateur quantique, on ne parle plus de bits, c'est-à-dire que les états logiques ne sont plus soit des 0, soit des 1. On utilise des systèmes atomiques, on les met dans une superposition d'états, et on parle alors de bits quantiques. Donc un qubit peut être un 1 ou un 0, ou les deux simultanément, ou quelque chose entre les deux. Et grâce à ces multiples états, on décuple la puissance de calcul et on dépasse avec quelques qubits les capacités de nos superordinateurs les plus efficaces aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement une question de quantité, c'est aussi une question de qualité, due à la nature, on va dire, du software qui fonctionnerait sur ces machines. Personne aujourd'hui ne peut sérieusement vous répondre sur l'utilité d'un ordinateur quantique. À quoi ça servira? Quelle sera sa fonction? Donc j'essaierai de laisser ce point de côté. Bon, il existe plusieurs possibilités de réaliser des bits quantiques. Et l'une d'elles est précisément d'utiliser l'énergie quantifiée, les états d'énergie quantifiés des électrons dans l'atome. Donc en illuminant avec la bonne fréquence durant un temps bien déterminé un atome, on peut le mettre dans une superposition d'états. Et en faisant interagir ces qubits, conduire des calculs quantiques. Mais en quoi tout cela est relié aux horloges atomiques? Eh bien, dans le cas de l'horloge atomique à Fontaine de Cessium, on utilise, je vous décris brièvement son fonctionnement. D'abord, on utilise un piège magnéto-optique pour refroidir les atomes, puis les atomes de cessium, puis on les lance dans le sens opposé à la gravité. Ils sont pompés dans le niveau supérieur de transition d'horloge et ils passent deux fois par la cavité micro-ondes où ils sont donc interrogés et on en déduit un signal qui va servir le laser qui pompe les atomes dans le niveau d'horloge. Aujourd'hui, ces pièges optiques sont également considérés par l'industrie de l'informatique pour stocker les bits quantiques. Alors, premier point, est-ce que ce point de tangence entre les horloges atomiques et les recherches en information quantique vont se limiter simplement à quelques utilisations de techniques expérimentales similaires? Un autre point de tangence entre la recherche en informatique et la recherche sur les horloges atomiques. Et dans un cas, on interroge un atome pour en déduire une fréquence. Dans l'autre, on excite un atome pour le mettre dans une série d'états superposés et on va conduire un calcul quantique. Donc, je dirais que dans les deux cas, on a affaire à un qubit exploité à deux fins différentes. Donc la question que je pose, et c'est une question, je ne prétends pas y apporter de réponse, c'est jusqu'à quel point les horloges quantiques de demain pourront être soit utilisées comme une horloge, soit utilisées comme un ordinateur. Et si ces dispositifs sont disponibles, sont suffisamment petits pour être embarqués et fonctionner dans l'espace, milieu qui est très favorable à la maintenance de la cohérence quantique et aux longs temps d'interaction qui sont très favorables à tirer le meilleur parti de ces horloges pour faire baisser le quotient S sur N dont je vous ai parlé. Disons qu'il y a une convergence d'intérêts entre le spatial et les dispositifs quantiques et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la recherche informatique et la métrologie du temps. Ces ordinateurs quantiques, comment vont-ils communiquer? Eh bien, ils ne vont pas communiquer avec les manières classiques qu'on a aujourd'hui, qui respectent les lois classiques qu'on connaît. Il y a un nouvel aspect qui va être utilisé, qui est l'utilisation de la corrélation quantique. Donc avec la superposition d'états, la non-localité est la deuxième caractéristique de la mécanique quantique qui la différencie profondément de la mécanique classique. Donc les premières expériences destinées à démontrer la non-localisation ont été conduites au CERN dans les années 60 et c'est M. Alain Daspet, travaillant à l'Institut d'optique d'Orsay, qui dans les années 80 a démontré une bonne fois pour toutes que deux photons émis par un atome ne forment qu'une seule particule. Les mesures de polarisation sur un des photons affectent instantanément son jumeau. Maintenant, est-ce que l'utilisation qu'on peut faire de cette corrélation contredit la relativité? Non. Car bien qu'il y ait une relation instantanée entre les deux photons, dans les techniques de cryptographie quantique qui sont déjà utilisées par des banques, il y a déjà des entreprises qui commercialisent le hardware, il faut deux informations pour utiliser l'enchevêtrement quantique. D'une part, il faut qu'un des intervenants dans la communication, disons Alice, il y a toujours Alice et Bob, diffuse les axes qu'elle a utilisés pour faire les mesures de polarisation. Et elle va faire ça en utilisant le téléphone, en utilisant des moyens de communication classiques. Et de l'autre côté, on aura les mesures de polarisation effectuées par Alice et Bob. Lorsqu'on réunit les deux, on peut concevoir des nouveaux schémas de cryptage qui sont intéressants parce que on peut détecter sans aucun doute un troisième intervenant qui intercepterait la communication parce que si on touche à l'enchevêtrement quantique, on le détruit. Donc Bob et Alice s'en apercevraient tout de suite. Alors, on a un projet qui a été assez bien étudié et on a mené des expériences entre La Palma et Tenerife pour démontrer que l'enchevêtrement tenait sur une distance de 144 km. Et il tient. Donc on peut avoir des protocoles de cryptographie quantique sur des distances qui séparent Alice et Bob de 144 km. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que 144 km dans la verticale, ça nous rapproche de l'espace. Donc on a fait des études de faisabilité pour, à partir de l'ISS, toujours l'ISS, distribuer des paires corrélées de photons depuis l'ISS à deux récepteurs qui seraient au sol. Et voir si on peut utiliser ces paires de photons corrélés, pour ces signaux corrélés, pour mettre en place des techniques de cryptage. Donc ce genre de choses est très important aussi pour la manière dont les ordinateurs quantiques vont communiquer, ordinateurs quantiques qui seront peut-être des horloges atomiques. Donc quel impact pour la métrologie ? Alors là, je vais être vraiment très rapide, je suis désolé. Eh bien, on peut utiliser l'enchevêtrement quantique de deux photons pour concevoir de nouveaux protocoles de synchronisation. En comparant les chronologies de détection de deux photons corrélés dans deux stations séparées spatialement, chaque détecteur étant relié à une horloge, eh bien, on peut établir quel est l'intervalle de temps qui caractérise la désynchronisation entre les deux horloges. Et ceci d'une manière complémentaire et peut-être compétitive par rapport aux techniques classiques. Et les incertitudes... Alors, ceci a été démontré comme étant faisable par une équipe espagnole du docteur Valencia à l'Institut des sciences photoniques. Si on utilise des photons corrélés pour mesurer une distance, eh bien, on peut aussi améliorer l'incertitude avec laquelle on va mesurer cette distance. Une équipe du MIT, notamment comprenant Giovanetti, Lloyd et McCone, ont démontré qu'ainsi, les incertitudes sur les temps de vol pouvaient être améliorées d'un facteur inversement à la racine du nombre d'impulsions émises. Donc, voilà, la métrologie peut aussi bénéficier de cette propriété quantique qu'est la corrélation. Alors, j'ai essayé de mettre tout ça bout à bout. Et on prend le système de positionnement relativiste de Tarantola et Cole. On regarde ce qui se passe dans la recherche en informatique, dans la recherche sur les horloges atomiques. Et on peut imaginer, par exemple, que les échanges des temps propres entre satellites soient cryptés en utilisant des protocoles de cryptage quantique. J'ai essayé de réfléchir à ce que ça serait une fonction d'onde qui décrirait l'ensemble du flux d'informations dans cette constellation. On arrive à des problèmes fondamentaux que je trouve particulièrement intéressants, mais bon, on a tous des goûts un peu bizarres. Finalement, à quoi ça nous conduit tout ça ? Eh bien, on voit que les utilisations scientifiques de Galileo vont augmenter les fonctions, la fonctionnalité de Galileo. À quoi serviront les évolutions des systèmes de positionnement actuellement ? Personne ne le sait. Mais on voit qu'il y a un rapprochement avec les technologies de l'information, et ça ouvre un champ considérable de possibilités. Aujourd'hui, dire que l'ordinateur quantique, ça servira à faire du Word en mieux, c'est commettre la même erreur que l'utilisation que pensaient en faire les réalisateurs du premier ordinateur, cet ordinateur qui faisait plusieurs étages. Quelles seront les fonctions, les services fournis par le GNSS de demain ? Ça ne sera certainement pas que de la position, et les applications scientifiques ne se limiteront certainement pas au simple tour d'horizon que je vous ai présenté dans la première partie. Je me permets de vous donner quand même les conclusions. Donc, il y a deux choses importantes, en fait. J'espère que j'aurai réussi à vous montrer que les activités scientifiques sur Galileo sont multidisciplinaires. Elles touchent vraiment à trois grands domaines qui sont les sciences de la Terre, la métrologie et la physique fondamentale. Et ensuite, je répéterai ce qui nous a toujours guidés depuis la première réunion que nous avons eue ici au Bureau des Longitudes pour préparer la première conférence, qui est le GNSS pour la science, mais également la science pour le GNSS. On a tous à y gagner dans ce projet, quelle que soit notre position dans la chaîne de production ou d'utilisation de ce système. Ce qui est fascinant, c'est que, et ce qui est très motivant, c'est qu'on voit assez facilement que les fonctions, la fonctionnalité de ces systèmes va augmenter dans une mesure qui n'est pas imaginable aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est stratégique et qu'il faut garder un œil dessus. Quelle sera la relation entre les GNSS de demain et les applications intégrées qu'on commence à étudier aujourd'hui? Et surtout, alors, deux points que j'ai peut-être juste passé trop rapidement, peut-être ACES et Space Quest. Donc, cet Atomic Clock Ensemble à bord de l'ISS et la distribution de photons corrélés depuis l'ISS sont vraiment deux missions qui sont fondamentales pour l'évolution de Galileo. Démontrer ces technologies, démontrer la faisabilité de ces concepts, mettrait l'Europe à la pointe des activités scientifiques dans ces domaines. Or, vous savez que des projets, même comme ACES, qui sont presque finalisés, eh bien, il faut lutter constamment pour les faire voler. Et tant qu'ils ne sont pas là ou en train de fonctionner, eh bien, ils ne sont pas là. Donc, il faut vraiment s'unir et pousser ces projets. Donc, c'est mon dernier slide. Je m'arrêterai là. L'horizon que j'ai dégagé, il dépend fortement, et je tiens à le préciser, de deux hypothèses qui sont vraies ou fausses, mais on ne sait pas aujourd'hui si elles sont vraies ou fausses. C'est-à-dire, d'une part, cette convergence entre horloge atomique et ordinateur quantique, comment vont converger ces deux champs? C'est une chose ouverte. Et est-ce qu'un jour, on aura l'enchevêtrement quantique à disposition dans une constellation de satellites? Bon, en supposant que ces deux choses soient vraies, alors on aura un GNSS augmenté d'une manière, je dirais, dramatique au niveau fonctionnel. Et quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, et c'est presque une question qui me hante, c'est quel test on peut concevoir pour tester le principe général de covariance sur des systèmes quantiques relativistes du genre que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, le principe de covariance générale qui est à la base de la relativité générale et au cœur de ses problèmes, au cœur de son mariage avec la mécanique quantique. Ces outils amèneront peut-être de nouveaux moyens pour réfléchir autrement à ce problème qui commence à dater, oui, depuis Einstein donc, et Bohr. Je remercie encore l'Académie.
Clovis Racento de Matos, théoricien à l'Agence spatiale européenne, s'exprimait sur l'avenir des systèmes de positionnement par satellite, une conférence réalisée au Bureau des Longitudes en janvier 2009 à l'Institut de France. Poursuivez l'écoute de nos émissions et cliquez sur l'onglet « Les thèmes » de Canal Academy. Vous y retrouverez toutes les émissions liées à l'astronomie. Par ailleurs, nous vous invitons à venir assister aux conférences du Bureau des Longitudes. Elles sont ouvertes au public. Vous pouvez consulter le programme sur le site bureau-des-longitudes.fr. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.